Lundi 19h à 20h, on passe au rouge sur le 106,6 FM, l'émission de la lutte des classes en léger différé du monde d'après. Une émission qui redevient également une émission de reportage. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir, réalisé par Seb Asbarak et présenté par moi-même, Gros Dada. Applaudisseurs de tous les quartiers, unissez-vous, on vous emmène au Mardi de la Colère. On vous en parlait la semaine dernière, mais si, vous savez, les Mardis de la Colère, le rendez-vous à ne pas manquer si vous applaudissiez les soignants sur votre balcon pendant le confinement. On part ensuite dans la manif anti-violence policière de jeudi dernier. Et dis donc, depuis que ces tendances de dénoncer la brutalité et les pratiques racistes de la police nationale, grâce au truchement du primat culturel états-unien, on espère vous y voir aussi dans ces manifs. Et puis, bien sûr, on retrouvera en fin d'émission Massy et Toto pour leur chronique déconfinée. Mais tout de suite, on retrouve Jérôme Leroy et son talon de fer, une rubrique à lire également dans Liberté Hebdo.
On est sorti de chez nous. On ne peut pas vouloir tout et son contraire. Les libéraux et les réacs Trumpo compatibles piaffaient d'impatience. Il fallait sortir de chez nous. Il est vrai que le confinement avait assez duré et qu'il fallait bien que tout reparte. Seulement, il y a eu un malentendu. Ceux du côté de la droite, du patronat et des marcheurs qui avaient espéré que cette sortie soit uniquement pour faire tourner l'économie et rétablir les marges des actionnaires en travaillant plus pour gagner moins, en sont pour leurs frais. Du côté de Maubeuge, par exemple, qui n'a pas besoin de ça, les gens sont sortis de chez eux pour dire qu'il était hors de question que Renault ferme alors que l'entreprise venait de toucher plusieurs milliards de l'État sans trop de contrepartie. On a même vu dans la manif ce dangereux bolchevique de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, défiler avec la CGT. Après tout, se crever la paillasse au nom de la reconstruction d'un système qui a tout de même sérieusement aggravé la situation par une vision managériale et comptable des questions hospitalières et sanitaires, ça demande réflexion. Les soignants engagés dans le Ségur de la santé sont encore tout étonnés de la rapidité avec laquelle les applaudissements se sont tus. Comme dit un proverbe normand, les bouchées avalées n'ont plus de goût. Et l'infirmière, pour les éditorialistes, est en passe de ne plus être une héroïne, mais une feignasse pleurnicharde qui continue à s'accrocher aux 35 heures. Et puis, quand on sort de chez soi, on en sort aussi avec ses problèmes. On est tout de même un peu étonné de voir les médias se concentrer à longueur de reportage sur la réouverture des terrasses de café. N'est-ce pas contradictoire tout de même de s'extasier sur le petit noir et le demi pris par des promeneurs qui profitent du soleil ? Normalement, ces journalistes qui voulaient les Français au boulot, et plus vite que ça, devraient s'indigner de tous ces gens qui glandent alors qu'ils devraient être en train de marner. À moins qu'ils ne fassent partie des millions de chômeurs complets ou partiels. C'est aussi une possibilité. Parmi les problèmes, évidemment, il y a ceux des quartiers. Ce n'était pas brillant avant le confinement, et ça n'a pas été brillant pendant le confinement, avec une mortalité nettement supérieure à la moyenne, le plus grand nombre de décrocheurs scolaires, et une situation qui a flirté, notamment en Seine-Saint-Denis, avec la famine. Je vois ainsi, toujours à droite, et même très à droite, des esprits chagrins qui hurlent à la mort devant les manifestations en faveur d'Adama Traoré. Quoi ? Ils osent braver l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, ces voyous, ces sans-papiers, ces mauvais Français islamisés ? Pourtant, les mêmes réacs ne cessaient de se féliciter de la résistance punk genre « nos futurs » de Trump et Bolsonaro, qui encouragent à prendre les armes contre ces salauds de médecins qui veulent casser l'économie. Mais voilà, maintenant, c'est Trump qui menace d'envoyer la troupe, rien que ça, parce qu'il semblerait que ce soit au tour des Noirs américains d'être de sortie, en compagnie de pas mal de Blancs, et même de pas mal de policiers, pour protester contre la mort par asphyxie de George Floyd. Floyd n'était pourtant, d'après l'inénarrable Zemmour, qu'un truand noir en surpoids qui s'est jeté volontairement pendant plus de 9 minutes sous le genou d'un flic connu, d'après ses états de service, pour sa modération humaniste. « Dans la mesure où on est ressorti, il faudra donc faire comprendre à Agnès Pannier-Runacher, la ministre du MEDEF, à l'identitaire libertarien, au beauf de base façon Pascal Praud sur CNews, et faire comprendre de manière assez ferme que les minorités en colère, les militants antiracistes, les cégétistes, les antifas, les féministes LGBT, les urgentistes en grève, ils ressortent aussi, et qu'ils ne sont pas contents, et que ça va se voir.
On passe au rouge, retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com. La crise du Covid-19 aura eu au moins le mérite de nous montrer à toutes et à tous à quel point le libéralisme a endommagé notre système de santé. Et désormais, chaque mardi, les soignants se mobilisent et on cause prime, suppression de plusieurs CHSCT, on cause des masques et des blouses, bien sûr, et de ce fumeux Ségur de la santé. Bref, de quoi faire chouiner les Yves Calvi et consorts. Un reportage de Massy et Gigi, évidemment, à l'hôpital de Lille.
On vous accueille aussi symboliquement, c'est plutôt important, sur un parvis où il y a un peu plus d'un an, en février 2019, ici même, là, on se faisait charger par la police parce qu'on était venu réclamer des moyens humains et matériels à l'occasion de la visite de la ministre de la Santé de l'époque et de la ministre de la Justice, le tout devant un parterre de directeurs relativement réjouis de nous voir subir ce sort.
Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus. Souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort.
Donc je passe la main à Isabelle qui va vous parler des suites de nos discussions en interne avec notre direction pour vous montrer que tout va mieux depuis la semaine dernière. Ça fait rire, c'est normal.
Des petites nouvelles très locales, donc de ce qui se passe au CHU de Lille et d'actualité ici au CHU de Lille, donc plus particulièrement pour les agents qui sont mobilisés. On a une semaine de temps, bah, il s'en passe tous les jours en fait. Hein, vous savez qu'ici on est quand même dans un gros établissement, donc tous les jours il s'en passe. Donc la semaine dernière ont été convoqués un CTE extraordinaire et un CHSCT central extraordinaire.
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Qui a très mal démarré, alors ça a été un peu la surprise et on pense que c'est un procédé surtout d'intimidation qui a eu lieu. Donc on était convoqués à 14h à l'IGR dans la salle du conseil. Et quand les élus du personnel se sont présentés, en fait l'ensemble du bâtiment avait été bouclé par les services de sécurité. Donc on ne sait pas pour quel motif. Est-ce que le rassemblement de la veille leur a fait peur alors que franchement le rassemblement de la veille s'est passé dans le calme et la bonne humeur et on était bien là pour mettre en valeur le travail des hospitaliers, donc il n'y avait pas de raison. Et on a été accueillis par 9 agents de sécurité donc pour aller siéger au CTE. Alors 9 agents de sécurité, moi je vous le dis, on peut se le dire tous autant qu'on est, il n'y a pas autant de personnel et il n'y a pas autant d'aides-soignantes le matin dans les services pour faire les toilettes. Hein. Donc comme quoi, quand on veut des effectifs, et qu'on veut se donner les moyens, on sait les trouver, mais tout dépend pourquoi. Donc visiblement, on devait déranger alors qu'on était convoqué. Donc on a siégé dans ce CTE. Je pense qu'ils ont eu peur qu'il y ait des vagues, parce que ce CTE, il était prévu qu'il soit convoqué pour réduire le nombre de CHSCT. Un CHSCT, c'est un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Donc ici, au CHU de Lille, on a 15 CHSCT locaux et un CHSCT central, ce qui correspond à l'ampleur du nombre de professionnels à couvrir, puisqu'on est 16 000 agents avec les médecins. Donc on peut se dire un CHSCT pour 1 000 agents, c'est pas non plus le grand luxe, encore moins quand on est en train de traverser une crise Covid et qu'il faut à la fois répondre aux enjeux de santé face au Covid-19, mais aussi face à la reprise des activités hospitalières en dehors du Covid, parce que je vous l'avais expliqué la semaine dernière, ça fait quand même 2 mois et demi qu'on a des patients qui sont en attente d'intervention et en attente de consultation et d'hospitalisation et qui n'ont pas pu l'être puisque la priorité a dû être donnée à l'accueil des patients Covid et à la lutte contre cette pandémie. Et ça a été une nécessité malheureusement de fermer 60% des activités du CHU de Lille, parce que si on ne faisait pas ça, on n'avait pas suffisamment de lits, on n'avait pas suffisamment de matériel et surtout on n'avait pas suffisamment de bras pour pouvoir gérer l'activité. Donc au moment où il y a des enjeux de santé et de conditions de travail qui dépassent toutes celles qu'on peut avoir habituellement, et ben notre direction, elle propose de fusionner les CHSCT et d'en supprimer, hein, puisque du coup on se retrouve désormais avec une proposition de la direction qui réduit nos CHSCT au nombre de 4 et un CHSCT central. Donc 4 CHSCT qui doivent couvrir la santé, la sécurité, les conditions de travail de près de 4000 agents pour chaque périmètre. Donc ça va être un boulot colossal et quasiment irréalisable pour nous d'aller faire le terrain et d'aller constater partout tous les risques qu'on va faire prendre à nos collègues. Le plus décevant dans cette histoire-là, que la direction nous propose ça, c'est un projet qu'elle a en tête depuis très longtemps, hein, c'est un dossier qu'elle avait déjà mis sur la table en 2009 et en 2013, la direction avait été mise en échec par les organisations syndicales qui avaient voté contre en CTE. Sauf que là, on se retrouve dans une configuration qui est très différente, puisque seule la CGT s'est opposée à ce projet de la direction. Comme on n'a que 5 voix sur 15, on a été mis en minorité. Donc désormais, la direction du CHU de Lille a gagné au moins provisoirement, hein, parce qu'on ne va pas en rester là, évidemment. En tout cas, provisoirement, elle a gagné l'idée que pour le moment, il n'y a plus que 4 CHSCT pour 16 000 agents en pleine crise sanitaire pour veiller sur la santé, la sécurité, les conditions de travail de nos collègues. On a abordé la question donc des dépistages. Hein. Vous savez que les tests ont commencé. Donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au CHU de Lille, la première vague de tests qui était celle... Alors, ils ont testé en priorité les agents qui s'étaient signalés au cours de la crise comme symptomatiques, développant des symptômes. Donc, c'est la première vague de tests qui a eu lieu ici au CHU de Lille. On a, à la semaine dernière, une annonce de 1427 agents testés avec symptômes, 255 positifs guéris. Donc vous voyez, c'est quand même une belle proportion, et 40 en attente de résultats. Comme cette première vague de dépistage a eu lieu, ils entament une deuxième vague de dépistage, donc avec les agents hospitaliers qui n'ont pas forcément présenté de symptômes, mais prioritairement les agents hospitaliers qui ont des pathologies aggravantes. Parce qu'on a des collègues qui ont des pathologies aggravantes et qui ont continué à bosser pendant le Covid. Hein. Ils ont été particulièrement exposés avec tous les risques que ça pouvait comporter. Donc sur cet aspect-là, donc collègues avec pathologie aggravante et collègues qui travaillent dans les services où les patients sont immunodéprimés et donc où il y a plus de risques pour le patient si jamais il était contaminé par un personnel, ce qui peut arriver évidemment. Donc là, 911 testés, 34 positifs. Donc 900 agents testés sans symptômes, 34 positifs. Donc oui, le Covid, il est bien passé par nous, même quand on n'a pas développé de symptômes. Donc ça veut dire qu'à un moment, on n'a pas développé de symptômes, mais on était contaminant pour nos collègues et on était contaminant pour les patients. On n'aura jamais d'analyse exhaustive de tout ce qui aura pu se passer durant cette crise sanitaire, même avec des résultats de tests, parce qu'on ne sait pas qui aura refilé quoi à qui. Ce qui est certain, et on se l'est déjà dit la semaine dernière, c'est qu'on n'a pas eu les équipements de protection individuelle à la hauteur des besoins qui auraient permis de limiter davantage encore les risques de contamination, parce que là, par contre, partout au CHU de Lille comme ailleurs, on s'aperçoit que la population hospitalière est surcontaminée par rapport à la population générale. Donc on avait eu de toute façon un problème. Je vous avais d'ailleurs annoncé la semaine dernière sur le rassemblement qu'on avait déposé un recours au Conseil d'État pour demander la réquisition des masques FFP2 pour que tous les agents hospitaliers soient prioritaires sur les masques FFP2 dès l'entrée dans la chambre de n'importe quel patient, parce que aujourd'hui, on a des patients qui sont hospitalisés sans être dans des unités Covid, mais qui sont comme n'importe qui peuvent être porteurs asymptomatiques et donc contaminants sans même qu'on le sache.
Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus. Souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine.
Ça va faire.
Beaucoup a été fait. Sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort.
Cette précaution, elle devrait être prise depuis le départ et elle devrait encore être prise aujourd'hui, sauf que c'est pas possible parce qu'on n'a pas suffisamment de masques FFP2 pour les hospitaliers. Je vous avais annoncé la semaine dernière que le Conseil d'État refusait de nous donner une audience, donc nos avocats ont remonté les manches et ils ont mouillé la chemise, ils ont réussi à nous obtenir une audience. Elle aura lieu demain matin à 9h30. Donc il y aura un représentant de la CGT du CHU de Lille qui ira sur place. L'objectif est d'obtenir des recommandations de port de masque FFP2 pour tous les agents qui interviennent dans tous les services auprès de tous les patients et la réquisition de ces masques FFP2 pour les hospitaliers avant que ça ne puisse être octroyé à des travailleurs dont l'activité professionnelle n'est pas indispensable dans l'immédiat à la lutte contre le Covid-19. Donc on aura une audience demain matin et sans doute des résultats assez rapidement. Donc voilà pour ce qui est des tests ici au CHU de Lille.
L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital.
On a été en manque de surblouses. Vous savez, c'est les surblouses bleues qu'on met au-dessus des tenues de travail en papier assez légère. Donc pour pallier au manque, nos établissements ont bien dû se débrouiller et ils se sont débrouillés avec des industriels locaux pour fabriquer des surblouses en plastique, donc des espèces de sacs poubelles qu'on enfile. Alors en effet, le plastique, c'est étanche, donc c'est fantastique, dit Fred, donc ça le regarde. En tout cas, c'est pas fantastique pour travailler parce que les collègues qui doivent mettre une surblouse en plastique pour faire une toilette auprès d'un patient, certes, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, mais au bout d'une demi-heure, quand vous enlevez votre blouse en plastique, vous êtes trempé, parce que si c'est imperméable venant de l'extérieur, c'est aussi imperméable pour sortir de l'intérieur. Donc il faut absolument qu'on communique à tous les collègues du CHU de Lille, vous devez refuser de travailler avec des surblouses en plastique parce que c'est l'enfer et qu'en fait, ils ont le choix aujourd'hui. On n'est pas en pénurie de surblouse, mais ils nous disent on a fait une trop grosse commande, messieurs, dames de la CGT, il nous reste 113 000 blouses en plastique en stock, il faut les écouler. Donc on leur a dit que non, il ne faut pas les écouler. Si elles doivent rester en stock, elles restent en stock. Si elles doivent aller à la destruction, elles vont à la destruction. Mais il est inadmissible qu'on impose à des collègues de travailler dans du plastique alors qu'on a des surblouses qui sont tout à fait adaptées et qui sont disponibles. Ils n'ont jamais imaginé ce que c'est que de faire la toilette d'un patient et d'être au lit du patient pendant 20 minutes dans une blouse en plastique. Et moi, je leur propose même de faire une réunion de CHSCT pour voir dans une blouse en plastique. On a fait un point sur les recrutements de contractuels et notamment les contractuels qui ont été recrutés pour travailler dans les unités Covid parce que ces collègues-là, bah oui, ils sont allés au front, c'était des précaires, alors pour beaucoup des étudiants. Ceux qui ne sont pas précaires ou ceux qui veulent se présenter à l'embauche au CHU de Lille, à notre avis, ils doivent être prioritaires sur l'embauche au CHU de Lille parce qu'à un moment, quand on les a appelés, ils ont été là et ils sont allés au front dans les mêmes conditions que les autres. Et pour certains d'entre eux, ils n'ouvriront pas droit à la prime Covid parce qu'ils n'auront pas fait 30 jours en équivalent temps plein durant la crise Covid. Donc on en a qui ont fait 28 jours, tant pis, zéro. Donc on en a 235 qui ont travaillé dans les unités Covid en mars au CHU de Lille et 102 au mois d'avril. Donc c'est pareil, les collègues qui ont écho de ces contractuels qui ont été recrutés, qui sont allés au front et qui pourraient passer à côté de la prime, c'est pareil, il faut absolument qu'on arrive à garder des contacts parce qu'il faut qu'on obtienne d'autres choses pour eux.
Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus. Souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort.
Pourquoi les gens qui meurent ont-ils toujours la même couleur? Si t'es un peu métisse, il ne fait pas bon croiser la police à Minneapolis. Pourquoi les gens qui meurent supportent-ils si mal la douleur? C'est quand même des petits joueurs, même pas capables de tenir 7 minutes. Le poids d'un homme sur la nuque. les connaît par cœur, toutes ces horreurs, si bien que ça nous écœure. Quand on lit dans un newspaper que c'est qu'une erreur, Trump veut calmer les heurts depuis son bunker, il envoie les mitrailleurs, tout en menaçant sur Twitter d'interdire Twitter. Dans sa tête, ils sont plusieurs.
Les goguettes, les gens qui meurent. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. Allez, on repart avec Massy dans les mardis de la colère, et c'était le mardi de la semaine dernière au CHU de Lille.
Pour défendre les hôpitaux et l'avenir de nos marmots, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là.
Dans ce bâtiment-là, ils doivent être 21 pour faire le ménage quotidiennement. Et je ne vous parle pas de l'acheminement des déchets, là, ils doivent être 7. Donc ça fait environ 28 par jour. Hein. Ils ont travaillé à 12. Et la direction nous a expliqué avec calme et bonne humeur qu'ils arrivaient à 12 à faire le travail de 21. Donc moi, j'ai fait maths 1 ou maths 2. Et il me semblait que 12, c'était pas la même chose que 21 plus 7. Mais... J'ai dû être mal formé pendant mon activité syndicale. Toujours est-il que donc voilà du concret de ce que vivent. Alors je vous parlerai pas de ce qu'ont vécu les mêmes agents où en début de période on les a menacés d'un rapport s'ils portaient un masque. Au même moment, leur directeur, on le voit se promener avec un masque dans les couloirs. Quelques semaines plus tard, on leur donne le masque Garidou dont vous avez entendu parler, ce masque qui vous étouffe. En fait, si vous voulez être intubé ventilé, vous mettez le Garidou et vous présentez directement au bâtiment des réas, ils vous intuberont directement. On leur a donné ce masque-là avec obligation de le porter sinon rapport. Et désormais, là, depuis une semaine, chose magnifique, ils ont enfin les masques chirurgicaux tissus, mais le virus est en train de disparaître. Voilà le genre de choses qu'on a vécues. Enfin, il ne faut pas être énarque pour trouver ça injuste et inacceptable. Et la première chose qu'on fait, je pense, à la CGT, c'est refuser tout ce qui est injuste et inacceptable. C'est révoltant, tout simplement. Il y a un autre souci dans la mobilisation, j'en finirai avec ça, c'est qu'ils ont annoncé ici au CHR, en tout cas, le versement de la prime de 1500 balles le mois prochain, pour ceux qui n'avaient pas d'absence, pour ceux où c'est à peu près net. Sauf que ça fait taire, enfin, donner 1500 balles, c'est quelque chose, quoi. 1500 balles, quand on va partir en vacances 2 mois et qu'on a vécu la période qu'on vient de vivre. Donc, ils sont certainement en train d'acheter le calme, mais le calme, il va pas durer, parce que je pense que quand tout le monde sera reposé en septembre, et nous, on doit faire vivre ça, et c'est ce qu'on est en train de faire. Quand tout le monde va être un peu reposé en septembre, et que c'est comme quand tu t'as pris une douche et que t'étais dans la merde et qu'on te dit retourne dans la merde. C'est comme quand t'as fait Koh-Lanta, que tu dis oh c'est bien je l'ai fait, et qu'on te dit tu vas retourner. Non.
Elles sont faites uniquement pour diviser et pour donner à l'opinion publique l'impression que quelque chose est fait pour les soignants. C'est faux. Le collègue parlait d'une prime de 1500 aujourd'hui. C'est pas vrai. Tout le monde n'aura pas cette prime-là. Et dans la très grande majorité des départements, c'est pas 1500, c'est 500. 500 si vous n'avez pas été en arrêt maladie. Alors ça veut dire aussi que vous allez devoir justifier. Bonjour, le secret médical. Il va falloir expliquer pourquoi vous avez été en arrêt maladie pour peut-être prétendre à la prime. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de cacher? Eh bien, moi, je vais vous donner juste un chiffre. Alors, on va le détourner. Ils vont essayer de vous le triturer dans tous les sens. Une chose simple. Pour une population à peu près équivalente, avec un système, le nôtre, qui était censé être le meilleur du monde, on a eu à peu près 28 000 décès. Et probablement, ce chiffre sera amélioré en fonction de ce qui s'est passé à domicile, qui a été très peu comptabilisé dans les EHPAD. En Allemagne, c'est 8 000. Il y a 20 000 morts. Si vous vous souvenez... Pendant la canicule, pour 15 000 morts, on a eu des vraies avancées. Et là, pour 20 000 morts de différence entre l'Allemagne et nous, c'est colossal, 20 000 morts. 20 000 morts injustifiées de par les carences du système de santé où on vous a dit qu'il avait été merveilleux. Il n'a pas été merveilleux, il a été transformé, il a été complètement monocentré. D'ailleurs, le collègue disait les vacances,
tout le monde ne pourra pas prendre des vacances parce que là, le boulot arrive. Eh bien, pour ces 20 000 morts, moi, j'espère qu'on fera autre chose qu'un Ségur qui sera une farce, une mascarade. Et puis surtout qu'on arrivera à avoir un soutien de la population parce que derrière tout ça, il y a effectivement les soignants qui ont été en grande difficulté. Mais franchement, c'est pas assez loin d'une encore plus grande catastrophe pour eux, pour la population.
Ouais, les camarades. Donc le Ségur, on en a parlé un peu la semaine dernière pour ceux qui étaient là, c'est grosso modo la réponse du gouvernement à la crise, et aux soignants et à leurs revendications. À la vocation à cette concertation a duré jusque mi-juillet, donc cette semaine, c'est déjà très court. On a déjà une semaine derrière nous où il ne s'est pas passé grand-chose, on a seulement eu la preuve de ce qu'ils voulaient faire. Donc je rappelle quand même, on en est à notre sixième plan de la santé, grosso modo depuis un an et demi. On a vu ce que les premiers ont donné. Et puis là, on se retrouve devant quelque chose qui a été lancé lundi de la semaine dernière, avec pas moins de 300 personnes en visioconférence. Je vous laisse déjà imaginer comment on peut discuter correctement comme ça. Sur la base d'objectifs qui sont déjà déterminés par le gouvernement, avec des interlocuteurs qui sont déjà choisis, et des objectifs qui sont déjà identifiés à 90%. Donc on nous annonce 4 piliers de discussion. Donc le premier, je viens d'apprendre que le nom avait changé, c'est transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent. Donc ça laisse à penser qu'on va être revalorisé, mais comment, pour qui, parce que les soignants ou pas les soignants, on ne sait pas. Le deuxième, c'est un plan d'investissement sur la réforme et les modèles de financement, des choses qu'on a déjà vues par le passé. La mise en place d'un système plus souple et plus simple, et ça fait peur, parce que d'emblée, on nous a parlé de bouleverser la réglementation du temps de travail. Grosso modo, on l'a vu venir, c'est du Sarkozy, c'est du travailler plus pour gagner plus. Donc on va vous revaloriser, mais il va falloir que vous travailliez plus pour. Et mise en place d'un système de santé fondé sur le territoire en intégrant l'hôpital, etc. C'est des choses qu'on connaît déjà et qui sont revues depuis longtemps. Le gouvernement, comme les fois précédentes, se contente de dire que les réformes qu'il mène sont les bonnes, mais qu'elles doivent être accélérées. Donc en fait, la crise doit servir à accélérer le chemin vers le pire. Ce que je veux juste dire là-dedans, c'est qu'on oublie des éléments essentiels. À aucun moment, on nous parle de recrutement d'effectifs supplémentaires. Jamais. On nous dit on va travailler plus pour gagner plus, mais sous-entendu, on va toujours faire plus avec les mêmes gens, mais ils vont juste travailler plus, donc pas d'embauche. On ne nous parle pas d'arrêt des fermetures de lits et de réouverture des lits qui ont été fermés. Jamais. On nous parle de revaloriser les carrières des hospitaliers, mais à l'heure actuelle, tous les gens qui sont embauchés à l'hôpital sont des contractuels. Donc des gens qui ne rentrent même pas dans la carrière. Donc ça ne les engage pas à grand-chose de parler carrière si personne n'y rentre. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'ils ont déjà commencé, ils savent où ils vont, ils savent avec qui ils vont y aller.
Nicole Nota, qui quand même avait été, dans les années 2000, évincée d'un syndicat, pourtant tout sauf très revendicatif, parce qu'elle était en proximité avec le patronat et avec le gouvernement, un gouvernement qui ne nous était pas très favorable. Donc tout ça ne sent pas bon.
Nous, on n'ira pas comme ça. Et une seule chose à retenir, ils nous donneront ce qu'on ira chercher.
L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital.
Moi, ce que je voudrais revenir, c'est sur cette crise très rapidement pour quand même vous rappeler des choses. Aujourd'hui, on assiste à une communication qui est une communication complètement dévoyée du ministère qui essaye de nous faire oublier ce qu'on a vécu pendant ces semaines. Vous avez entendu, la base, c'est finalement on ne sort pas plus mal que les autres pays, notre bilan n'est pas si mal que ça, notre système a tenu. Alors c'est faux, le système n'a jamais tenu. Pourquoi je dis qu'il n'a pas tenu? On a sauvé les meubles. Mais pendant qu'on a transformé en fait un système de santé qui était au bénéfice de tout le monde à un système de santé qui a été entièrement dédié au Covid. Je rappelle aussi qu'ils sont capables quand même de nous mettre comme des exploits et mettre en avant comme des exploits et des trucs héroïques, des trucs, des grandes réussites. Le fait qu'on ait envoyé à l'autre bout de la France près de 500 patients lourds, vous imaginez ce que ça représente, et près de 250 patients ont été envoyés à l'étranger parce que notre système n'était pas en capacité de les prendre en charge.
Vivons le capital ! Vivons le capital ! Vivons le capital ! Vivons le capital ! Donc on vous propose de faire un tous ensemble le 16 juin 14h30 à la place de la République, rassemblement et manifestation avec ou sans accord du préfet. Mais pour cela, il faudra être nombreux, il faudra créer le rapport de force nécessaire et on n'a qu'à 4 jours pour aller dans les entreprises, convaincre les salariés qu'on n'est pas de la chair à Macron et qu'on va se battre jusqu'au bout pour nos revendications.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+. Dans cette semaine ultra chargée par la police et la colère qui monte, nous avons laissé traîner nos micros dans la manif anti-violence policière du jeudi 4 juin. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées alors à République, puis sont parties en manif sauvage rue du Molinel. La maison Poulaga décide de bloquer ce cortège non déclaré rue de Tournai pour éviter qu'il n'entre dans le centre-ville. Et évidemment, s'ensuit le désormais classique « je te bloque, je te charge » ad nauseam, le tout bien sûr dans le brouillard des lacrymos, acheté avec un pognon de dingue. Bilan. Un manifestant blessé, c'est toujours la guerre de classe en France.
On est le jeudi 4 juin, il est 19h34, on est sur la place de la République avec des milliers d'autres personnes qui sont venues protester contre les violences policières. Alors oui, des milliers de personnes avec beaucoup de têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'il y a énormément de jeunes gens ici. Il y a beaucoup de couleurs de peau aussi différentes. Et puis bien sûr, avec les masques, on a un peu du mal à reconnaître puisqu'il y a quand même quelques manifestants qui ont mis les masques. La manifestation est démarrée depuis 30 minutes. Et voilà qu'elle prend une tournure sauvage puisque... L'ensemble du groupe se dirige maintenant vers la gare, en passant par la rue du Molinel, peut-être. On peut noter aussi qu'on ne voit aucune signalétique de parti politique ou de groupe, de syndicat quelconque. Hein. On dirait qu'il y a une consigne qui a été donnée de ce côté-là. Donc si on peut croiser de nombreux militants et des gens parfois avec des autocollants, on ne voit ni chasuble, ni drapeau, ni pancarte estampillée à un parti ou à un syndicat. On peut voir par contre énormément de bouts de carton qui sont brandis avec des inscriptions « Black Lives Matter » essentiellement.
Ça fait des années que ça dure et que bah, heureusement qu'à un moment donné, bah, on manifeste hein, simplement.
Il y a beaucoup de gens qui disent « la police est raciste ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pas tous. Heureusement, pas tous. Et comme dans tout contexte, comme dans toute personne, ben, le racisme existe, mais partout. Il n'y a pas que dans la police, que dans les blancs. Enfin, c'est partout, en fait. Et malheureusement, ben, ça existe. On ne peut pas se le cacher. Et heureusement que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, tout simplement.
Est-ce que vous avez déjà vécu des situations avec la police, vous-même ?
Moi, personnellement, oui. Enfin... Entre autres, enfin les contrôles, etc. Enfin voilà. Par exemple, quand je suis avec des amis, on fait contrôle, etc. pour rien, mais exact. Enfin, c'est leur travail. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu de problème particulier avec la police. Je suis là pour le soutien, mais j'ai pas vécu cette sensation de racisme ou, en particulier. En fait, c'est la première fois que je viens à une manifestation. D'accord. Et du coup, je sais pas du tout si c'est déclaré, si c'est pas déclaré.
Je pense que ça fait très longtemps que cette cause, elle existe. Mais c'est aujourd'hui, on a l'occasion de manifester. Tout le monde est avec nous, donc voilà pourquoi je suis venue.
Est-ce que vous pensez que la police est raciste ?
Je pense que toute la police n'est pas raciste. Mais qu'en effet, il y a un problème dans le système en lui-même qui est raciste. Pas forcément les policiers, mais en tout cas le système.
On est rue du Molinel, donc il y a un barrage de la police. C'est les CRS qui sont en face de la manifestation. On est au milieu de la rue du Molinel et la manifestation est bloquée maintenant.
Là, sur votre pancarte, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?
La police est raciste, la police nous assassine.
En fait, on a les exemples des personnes qui se font assassiner, etc. Il y a aussi les exemples de tous les jours. C'est-à-dire que
Être une personne noire, c'est aussi se faire contrôler beaucoup plus qu'une personne blanche. On se fait, enfin pas moi personnellement parce que je suis pas un homme noir, mais ils se font contrôler énormément plus. Ils se font à la gare, on les déshabille carrément parce qu'on pense qu'ils ont des choses, juste parce que c'est des hommes noirs.
Il y a des insultes genre bamboula, nègre, bougnoule pour les arabes et tout ça.
À quoi ça sert tout ça?
C'est quelque chose qui est ancré en fait. C'est depuis des années. C'est pour ça qu'on se bat, parce que nous on voit aucune raison. Il n'y a qu'une race et c'est la race humaine. Et ils voient des hommes différents alors que nous on voit des hommes, on est tous les mêmes.
Aujourd'hui la manif n'est pas autorisée, elle n'a pas été autorisée et puis elle est bloquée finalement. Le centre-ville, là où il y a le plus de visibilité, nous est interdit. Pourquoi selon vous?
Déjà elle est bloquée sous des prétextes divers et un peu stupides, parce que on nous dit que c'est par rapport à l'hygiène, le coronavirus, tout ça, alors qu'il y a beaucoup de terrasses, tout ça, qui sont blindées. La place où il y a l'église, la cathédrale, elle est blindée de plein de gens qui sont sur les terrasses en train de boire tranquillement. Donc c'est un peu des raisons stupides de nous bloquer, alors que la France, elle est connue pour manifester. Donc c'est un droit en France, on a tous eu le droit de le faire. Donc pour moi, c'est juste des excuses de nous bloquer, en fait.
C'est du racisme?
Ils veulent bloquer notre visibilité, en fait, de notre combat.
C'est une rancœur qui est au plus fond de notre inconscient, l'inconscient des Africains en général, qui commence avec l'esclavage, avec la colonisation, avec l'exploitation, qui continue encore aujourd'hui. Je peux vous dire que si les Africains sont pauvres, c'est en grande partie de ce que je viens de dire. Je le répète, l'esclavage, la colonisation, l'exploitation. S'il y a beaucoup d'Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest qui se jettent à la mer pour venir en Europe, eh bien c'est parce que chez eux, ils ne peuvent pas profiter, n'est-ce pas, de leur matière première. Tous les pays de l'Afrique centrale, anciennes colonies françaises, ils sont dans la misère. Ils restent stabilisés dans la misère. Et la France a un outil qu'on appelle le franc CFA, qui maintient les Africains dans la misère, dans la pauvreté. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est en lien avec l'esclavage. Ce qui se passe avec Adama Traoré, c'est encore en lien. La discrimination, le rejet, la haine. La police, c'est un instrument bien sûr, qui doit veiller à protéger, protéger les citoyens d'où qu'ils viennent. Mais c'est aussi un instrument de pouvoir. On le voit très bien dans les quartiers difficiles. Les jeunes arabes, dits arabes ou bien les noirs, sont ceux qui souffrent le plus. Vous ne verrez pas un policier blanc tirer sur un Français blanc. Ça arrive rarement. C'est toujours les noirs, c'est toujours les arabes.
Est-ce que vous-même avez peur de la police?
Eh bien, j'ai peur de la police. J'ai 3 enfants et je leur dis toujours, faites très attention, parce que vous serez les premières victimes.
Alors là, il y a une manœuvre de contournement qui s'est faite par un groupe d'environ quelques centaines de manifestants. Et du coup, les CRS sont pris à revers. Bonjour.
Oui.
Je peux vous demander ce qui se passe là actuellement?
Excusez-moi, je n'ai pas du tout envie de faire d'interview parce que j'ai peur que vous déformiez mes propos, alors je préfère pas.
On est juste là pour que la France nous regarde et qu'ils réalisent que les jeunes dans nos marques, ils réalisent que le peuple français a un problème avec ça, qu'ils veulent en parler. On n'est pas là pour que le message, ça soit la police, etc. C'est pas ça notre message du tout.
Est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu des situations difficiles avec la police?
Ah oui, moi personnellement, oui. Je ne sais pas pour mes propres frères qui sont aussi présents, mais moi, personnellement, j'ai déjà reçu plein de fois. J'ai déjà reçu quand t'es petit. On a déjà vu nos parents se faire arrêter pour des problèmes de lumière dans notre voiture et nous demander d'où on venait, où on était, qui on y sommes, rien que... Que des choses racistes contre nous, juste basées pour notre couleur de peau. Alors que quand je demande à mes potes, à moi, ou si je marche avec quelqu'un de blanc par exemple, j'ai pas le même regard, j'ai pas le même problème en fait.
À quoi ça sert le racisme en France là? Est-ce que ça a une utilité, par exemple, pour le pouvoir?
Est-ce que ça sert le racisme? Ça peut servir à, comment dire, à contrôler la population. Ça peut servir à... On peut utiliser le racisme pour en forme de nostalgie, pour nous dire rappelez-vous notre époque, rappelez-vous, mais ça, en vrai ça sert à rien. On peut l'utiliser, on peut trouver une raison, mais ça sert à rien le racisme.
Attends une minute, c'est pour la lutte, coupe tout quand je débute. J'atteins mon but, ouais ma négus, je vois Belzébuth partout. Car elle recrute, nos peuples se percutent, se charcutent. Et chaque culte s'envoie des tonnes du percute. Ça serait se percute. J'ai les minots que ça perturbe, s'assassine et puis se bute. J'élimine au coup de cul. Je ne veux pas de la vie d'Aloca ni du BMK. Vous d'un bon avocat, même les gars de la base, on veut péter des câbles. Rah et puis d'insultes, je ne veux pas de la vie d'Aloca ni d'une Afrique superfue. Dévalisée dans tous les détails, du pétrole à la percute. Mon Sharingan, on a un aperçu. Dites aux acidiques que de l'esclavage, on n'a rien perçu. Endurci par le sort, la hasse, les barrières. C'est ce qui fait de nos sœurs, nos mères, des guerrières. À nos tours, pas de lâche, pas de machine arrière. Au reste véridique, qu'importe nos carrières. C'est un combat-les,
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 combat-les. C'est un combat-les.
Tiers-monde fit Redka, combat de lettres.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6.
On repart avec Seb dans la manif anti-violence policière de jeudi dernier à Lille.
Il est 20h37, la police a attaqué la manifestation à coups de gaz lacrymogène. J'ai pas vu s'il y avait une charge devant. Mais voilà, là on est. Le vent ne nous était franchement pas favorable et tous ces jeunes gens galopent très fort. J'ai pas bien compris pourquoi évidemment la manifestation n'est pas déclarée, mais enfin, on a bien observé, il n'y avait aucun jet de projectile, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. J'en vois un ou deux partir là en direction des forces de l'ordre, mais jusqu'à présent il n'y avait vraiment pas du tout de provocation de la part des manifestants. Et c'est reparti là. Ça c'était un pétard, mais sinon on est totalement entouré de gaz lacrymogène. Là, évidemment, l'attaque de la police a provoqué du coup une agressivité supplémentaire de la part des manifestants. Oh. Selon un processus bien connu.
C'est injuste tout ce qui se passe dans le monde, surtout envers les Noirs en fait. Et on est là pour manifester contre tout ce qui se passe quoi. Depuis la mort de George Floyd, on se rend compte que les choses n'avancent pas. Ça fait des années que les Noirs sont un peu maltraités, genre lors des contrôles policiers et tout ça. Et là, on est là pour manifester contre la mort de George Floyd et de Adama aussi. J'ai vécu le racisme en arrivant en France. Ça fait 5 ans que je suis en France. Et bien sûr, j'ai vécu le racisme plusieurs fois en route avec d'autres personnes qui pensaient que j'étais inférieur à eux parce que je suis noir, alors que c'est pas le cas. Alors qu'on doit tous être, on est tous unis, quoi. On doit être tous à la même égalité, quoi.
On n'est pas là pour dégrader, on est juste là pour protester contre les inégalités et le racisme.
Il y a un lien entre les inégalités et le racisme, selon vous ?
Oui, je pense, oui.
Lequel ?
Quand on est noir, c'est plus compliqué de trouver un emploi quand on est blanc. Voilà, je pense ça.
Donc là, il y a plusieurs projectiles qui sont lancés de la part du groupe qui était resté en station à peu près devant le McDonald's. Et là, charge de la part des CRS. Énormément de projectiles qui sont lancés. Ah, les lacrymos sortent, alors il va falloir se barrer.
Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police.
Vous êtes un gilet jaune, monsieur.
Tout à fait.
Ouais, parce qu'on vous reconnaît avec l'autocollant Oui au RIC là sur le sac. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ?
Bah, parce que je suis contre ce gouvernement depuis le début. Et que voilà, j'ai ouvert les yeux. Macron, avant je m'intéressais pas à la politique, depuis Macron, j'ai trouvé ça tellement, tellement exagéré quoi, que je m'y suis intéressé. Et j'ai fait toutes les manifs des gilets jaunes, tous les actes, et pour les retraites. Et aujourd'hui je suis là pour les violences policières parce que j'en ai subi. Ma femme est venue une fois à une manifestation, elle a pris un coup de matraque dans la tête alors qu'elle était juste en train de marcher quoi. Elle a eu le crâne ouvert. Voilà, je trouve pas ça normal, donc je trouve que c'est normal que je sois là aujourd'hui, voilà, juste pour ça. J'ai vu énormément de choses terribles pendant les gilets jaunes, une petite fille de 10 ans, pareil, se faire matraquer par un CRS qui faisait 2 mètres de haut, par derrière, des choses voilà, qui sont dans mon crâne pour toujours. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Vous pensez, vous, qu'il y a du racisme dans la police ?
Oui, bien sûr, il suffit de regarder les images. Que ça soit aux États-Unis, en France, moi j'habite dans un quartier populaire, on le constate.
Ça
assiste à une charge de la police. La police est en train de charger les manifestants. Ça y est, c'est reparti, ils tirent des grenades. On va s'en aller. Attention, bah ça tombe comme à Gravelotte.
On est là pour les violences policières et ça continue.
Il y a une personne qui est blessée au sol, là. On est dans la rue qui longe la gare sur la droite. Et on voit un manifestant au sol qui est soigné par des street medics. Ça, c'est suite à la charge de la police.
Aux États-Unis, nous avons à la fois l'exploitation des travailleurs, mais aussi la double oppression des minorités nationales, quoi. Les Noirs, notamment, mais aussi les Hispaniques. On n'en parle pas beaucoup ces temps-ci, mais les Hispaniques aussi. Et il est clair que ces deux mamelles du système, à savoir exploitation des travailleurs et oppression des minorités nationales, eh bien, là, il y a une jeunesse qui monte en puissance pour dire, bon, il faut arrêter maintenant, quoi, concrètement. Ça montre bien que le système capitaliste est à bout de souffle, là, hein, très clairement. Je donne l'exemple, effectivement, du cas Adama. Ça fait 4 ans, je pense, qu'il y a ce cas-là. Jamais on n'est parvenu à avoir autant de monde dans les rues pour, effectivement, exiger une justice pour Adama. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont dehors pour dire, à un moment donné, le racisme d'État, il faut que ça s'arrête, quoi. Et ça, le racisme d'État, la principale manifestation aujourd'hui, c'est effectivement la question notamment des assassinats, de la police, des pratiques de la police.
Est-ce que la police est raciste selon vous ?
Ben, y a un chiffre que la presse a révélé ces temps-ci. 51% de la police en France vote pour le Front National.
Bon, ça, c'est très clair.
55%, moi j'avais entendu 51%. Donc 55% effectivement de la police vote Front National. C'est clair que. Mais en plus, c'est logique et normal. N'oublions pas que nous avons affaire à des États capitalistes comme l'État capitaliste français, qui ont les stigmates, les empreintes effectivement de ce que cet État a été et continue de l'être, à savoir un État colonial. Hein.
À quoi ça sert le racisme ?
Ben, il sert à diviser les travailleurs. Il sert à faire en sorte que effectivement. De la même manière que sur le plan économique, c'est la concurrence de tous contre tous, très clairement, eh bien, la concurrence prend la forme de la division du monde du travail, donc la concurrence entre les travailleurs. Et une forme particulière de la concurrence, c'est effectivement le racisme. C'est effectivement l'érection de ce mur-là, en évitant en fait que là où il faut l'unité, eh bien, on va créer en fait la division. Enfin.
Oh là là, c'est reparti là. Des jets de projectiles, quelques jets de projectiles. Hein. Il en suffit d'un seul pour déclencher immédiatement la riposte de la police. Un coup de gaz lacrymogène et c'est reparti. Comme tout à l'heure. C'est déjà la troisième salve de gaz lacrymogène là, que la police nous envoie.
Vous êtes là pourquoi ?
Bah pour te défendre. Les personnes qui ont été victimes d'injustices policières, de bavures policières, qui sont morts à cause de la police. Et juste le fait d'interpeller des personnes noires arabes dans la rue, même pas de les tuer, mais de les battre. Et juste d'interpeller des personnes pour leur race, pour leur couleur de peau, c'est très grave.
Vous avez déjà vu ça, vous ?
Oui, on m'a déjà interpellée, parce que je suis une arabe. Alors que j'ai rien sur moi, je suis pas une criminelle, j'ai jamais rien fait de ma vie. Et on interpelle, selon Imati, c'est deux garçons de mon quartier qui ont été tués par la police et il n'y a toujours pas de justice, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
De votre avis, si vous n'étiez pas racisé, il ne vous aurait pas arrêté à ce moment-là ?
Non, il ne m'aurait pas arrêté. Elle est française, c'est jamais.
Moi, je ne me suis jamais fait arrêter.
Il y a beaucoup de gens qui disent que la police est raciste. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que oui. Pas tous les policiers, mais beaucoup, beaucoup d'entre eux sont racistes. Et même si ce n'est pas tous les policiers, pour ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, il y avait quand même 4 ou 3 policiers, je ne me souviens plus, sur les lieux. Et même s'il y en a un seul qui l'a tué, les autres auraient pu agir à ce moment-là. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours un effet de groupe. On préfère se protéger soi-même au lieu de défendre les personnes.
Qu'est-ce qui explique ce racisme dans la police ?
Je ne sais pas, ça faut poser la question au poste de police. Il faudrait vérifier qui est-ce qu'on embauche dans la police.
Oh,
Attention! Oh, il y a un blessé là-bas! Oh la vache!
La lutte reprend partout, le confinement a fait péter la cocotte Minute France. Rendez-vous dans cette grande manif du mardi 16 juin à 14h, place de la République. On passe au rouge, une émission que t'écoutes quand tu veux, en podcast sur campuslille.com. Le képi lui irait si bien s'il n'avait pas ses foutus dreadlocks et elle porterait avec élégance l'uniforme si elle n'avait pas peur de l'engagement. Je parle bien sûr de Massy et Toto dans leur chronique.
Massilia revient dans la partie.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc vous me parlez de répression.
Par tant de rage, je pense que je ne vous apprends rien. Contrairement à ce que Macron dirait, il y a des violences policières en France. Mais pas qu'en France. On en retrouve aussi en Belgique, en Angleterre, en Italie, en Grèce. Bref, on en retrouve un peu partout dans le monde. Même aux États-Unis. Je vous apprends rien non plus. George Floyd est mort étouffé sous les genoux d'un flic. Les USA se sont embrasés. Minneapolis, New York, Washington, Chicago, Los Angeles et j'en passe sont en situation d'insurrection. Dès dimanche, des appels à la mobilisation également pris dans nos grandes villes françaises. La date est donnée pour le mardi 2 juin. Date symbolique où Assa Traoré pourrait voir une avancée dans l'affaire de son frère Adama. J'appelle Toto. La question ne se pose pas vraiment. Bien sûr qu'on sera présent. Mais j'ai un doute. J'ai peur de l'échec. J'ai peur de me retrouver sur les mêmes rassemblements qu'on a vus à la fin des Gilets jaunes, où l'on était 150. J'ai peur de me retrouver sur les mêmes manifestations qu'on a vues lors de la réforme des retraites, où certes on était beaucoup, mais toujours avec les mêmes visages. Puis là, on parle de quartier pop et de racisme. Je m'attendais à encore moins. Des aveux de faiblesse plus que des démonstrations de force. Mais Toto me rassure.
Cette fois, c'est différent. On voit des choses partout dans le monde qu'on n'a jamais vues avant.
Puis il est quand même plus vieux que moi, Toto.
Mais si, j'ai la même sensation que quand le mouvement des indignés a commencé en 2011.
Moi, j'étais au collège.
Moi, je commençais à m'intéresser à la politique. Puis, il y a la lutte pour Adama, qui mobilise quand même nos amis des milieux militants.
Ça va, il me rassure un peu, mais je vous avoue que j'y crois pas trop. Je me réveille mardi matin, Toto est déjà au taf. Il m'appelle sur sa post-clope matinale. Je savais pas que ma journée serait rythmée par la police. Comme si j'allais être les aiguilles d'une horloge et que les numéros seraient la BAC, puis les CRS, puis la BAC, de 11h du mat jusqu'à minuit. Tu vois pas où je veux en venir? Je vous le disais. Au téléphone avec Toto, on a une conversation comme les autres. Nos envies de changer la société, de quelle manière? Nos envies profondes de faire bouger les choses. Mais à ce moment-là, autre chose s'est mise à bouger. Mon bureau. Il bougeait au rythme d'un bruit métallique, le bruit que fait le métal contre le bois. Je raccroche et rejoins ma mère et mes sœurs dans le salon. Elles m'expliquent qu'il y a une perquisition. Le bruit était celui de la BAC enfonçant la porte de mes voisins. Je ne savais pas que c'était possible de faire des perquisitions à 11h. On regarde par la fenêtre. Il n'y a aucun congout de flic, juste des voitures banalisées de baqueux. Deux d'entre eux fumaient une clope adossée à l'arbre, comme si rien ne se passait 5 étages plus haut. Les cris des policiers me ramènent sur terre. De là où j'étais, je ne savais pas si le bruit venait de l'étage du dessus ou du dessous. On apprendra plus tard que 2 appartements ont été perquisitionnés en même temps, au-dessus du mien et en dessous du mien. C'est horrible d'entendre des femmes et des enfants pleurer couverts par le cri de la police sans comprendre ce qui se passe. Je suis pas là pour juger mes voisins. C'est pas à moi de dire s'ils ont fait une connerie. L'autre connerie, c'est celle des flics. Quand je ferme les yeux, je ne peux qu'entendre les pleurs de ces gosses qui n'ont rien demandé. Je me demande quel impact cette irruption violente aura dans leur construction en tant qu'être humain. Vers 14h, je descends les marches et me retrouve face à une porte fracassée. Une porte qui avait un énorme trou béant au milieu, un trou assez grand pour laisser passer un homme. Je ressentais une sorte de rage et d'injustice. Quand je me suis retrouvée dehors, j'ai vu les deux familles, mes voisins assis sur les bancs pleurant et se rassurant les uns les autres. Au final, on a l'habitude. Mais c'est à chaque fois un nouveau traumatisme, comme si on réouvrait une plaie qui avait déjà mis beaucoup trop de temps à se refermer. Je pars en voiture avec 2 amis, Camille et Nico de Rivol, pour prendre du son au rassemblement de la CGT à l'hôpital. On est accueillis par une voiture banalisée aux vitres teintées, où un flic nous suit du regard totalement cagoulé. La seule chose qu'on voyait, c'était ses yeux perçants et oppressants. En quittant l'hôpital, toujours en voiture, on subit un contrôle et les réflexions désobligeantes de la police. Je savais qu'à 18h, je devais aller au rassemblement. J'étais perdue entre ma colère, ma rage et mes appréhensions. Je venais sur cette place de la République, lieu de croisement entre les Lillois et Lilloises de tout horizon, ce lieu de revendication, ce lieu qui brasse badauds et militants, noirs et blancs, riches et pauvres. Je venais sur cette place pour ce rassemblement, mais avec cet esprit un peu défaitiste, malgré les beaux discours de Toto. Mais je me suis pris une claque dans la gueule. Les gens rassemblés là n'étaient pas des dizaines, pas des centaines, mais bien des milliers. Contrairement à ce qu'on peut voir dans nos manifs syndicales, là je ne vois aucun drapeau qui flotte au vent. Puis je reconnais bien quelques visages, mais ce n'est pas des visages que j'ai l'habitude de croiser en manif, mais plutôt ceux que je croisais dans mon collège et mon lycée, ces têtes que je vois dans mon quartier. Ce n'est pas une marche blanche, mais un défilé noir, noir de peau et noir de colère. Là, je pense que nous sommes dans un rebondissement, un rond-point qu'on prend à toute vitesse sans respirer. Les flics étaient bien présents, mais tellement peu nombreux. Ils ont essayé de retenir le départ en sauvage, mais ils se sont vite retrouvés débordés. Les manifestants sont passés sur les côtés du cordon de casques et de boucliers pour s'élancer dans un cortège improvisé. La manif sauvage qui a suivi le rassemblement était joyeuse, bienveillante, solidaire et pleine d'espoir. Les visages étaient pleins de tristesse et de colère, les yeux étaient habités par une flamme d'espoir victorieuse. Les champs étaient couverts parfois de bruits de klaxons des automobilistes bloqués sur la route mais solidaires. Plus que les klaxons, les rythmes de nos pas étaient accompagnés des applaudissements des riverains collés à leurs fenêtres. La solidarité dépassait la chaussée et montait dans les immeubles. C'était beau. Des slogans scandés en centaines d'actions différentes. Des pancartes aux mille messages. Cette manifestation est comparable à aucune autre. Je croisais autant de collégiens, de lycéens que d'étudiants ou de travailleurs. Si le meurtre de George Floyd a mis les gens dans la rue, nous étions tous unis derrière des messages adressés aux morts français. Jeudi, ça a été une manif encore différente. Si mardi, la police n'était pas préparée et nous a laissé passer, jeudi, ils nous ont bloqués, gazés, violentés, poursuivis, nassés. J'avais même parfois l'impression d'une chasse à l'homme. Pourtant, les manifestants étaient clairs. Nous sommes pacifistes, on revendique, mais on ne cherche pas la confrontation. Je pense qu'on la vit déjà assez dans nos quartiers. La violence policière a plusieurs visages. J'ai plus peur. J'ai confiance en nous. Et je vous fais cette chronique avec une voix cassée. Cassée par la rage et l'intensité mise dans les slogans. Je le répète, ensemble nous sommes invincibles. Je vais pas vous faire de langue de bois. Je vais vous dire les choses clairement. J'ai aimé le fait que ce soit les premières concernées et les premiers concernés qui soient à l'initiative. J'ai aimé qu'on laisse le mégaphone aux personnes que l'on n'entend jamais à cause de leur couleur de peau. J'ai aimé le fait que mes amis blancs restent en retrait et reprennent une position de soutien. Bref, j'ai enfin retrouvé l'espoir. Justice pour Adama, justice pour Georges, justice pour Selom, justice pour Matisse, justice pour tous les autres.
Bien que nous devrions faire cette chronique en la mémoire des personnes tuées par la police, nous voulons rendre hommage à Clément Méric. Clément était un camarade du syndicat solidaire et militant antifasciste. Clément est mort il y a 7 ans, le 5 juin 2013, sous les poings de l'extrême droite parisienne. Nous lui rendons hommage.
Écoutez, on passe au rouge et tout a complètement changé. Une émission réalisée par Seb et animée par moi-même, Gros Dada. Merci à Gigi, à Massy et à Toto. À la semaine prochaine, lundi 19h sur Campus Lille, bien sûr. On se retrouve également le 16 juin dans la rue. Et n'oubliez pas, pas de justice, pas de paix.
Превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно.